Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Souhaitons la bienvenue aussi à Sébastien Jallot, avec qui j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui. Et saluons aussi les manes et l'âme de Sadek Hedayat, écrivain iranien que vous remettez en lumière. Sébastien Jallot, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Sébastien Jallot, vous êtes traducteur et éditeur et responsable de cette double et même triple entreprise. Non seulement nous offrir une nouvelle traduction de La Chouette aveugle de Sadek Hedayat aux éditions des Belles Lettres, mais aussi, et dans le même ouvrage de 500 pages, une édition critique du texte persan et une enquête très fouillée sur les circonstances de l'écriture de ce roman cultissime qu'est La Chouette aveugle, et aussi encore sur le suicide de l'auteur, l'Iranien Sadek Hedayat, donc à Paris, rue Championnet, en 1950. Sébastien Jallot, comment est né ce projet démesuré? À quel moment est-ce que vous commencez à retraduire La Chouette aveugle? Ou est-ce qu'il faut remonter plus avant encore? À quel moment découvrez-vous l'œuvre de Sadek Hedayat?
En fait, j'ai découvert le roman quand j'étais adolescent. C'était un livre qui était dans la bibliothèque de mes parents, tout simplement. Donc j'ai commencé à le lire complètement par hasard quand j'avais peut-être 17 ans ou 16 ans. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué d'emblée à cause de son atmosphère, de sa forme. Et puis voilà. Et en fait, plusieurs années ont passé.
Et vous l'aviez lu en français, là.
En français, oui, exactement. Ouais. Dans la traduction de Roger Lescaut. Et donc, plusieurs années ont passé. Et quand j'ai commencé à apprendre le persan, donc à peu près 8 ans plus tard, 7 ans plus tard, au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai commencé à me demander comment était le texte dans la langue originale. Et donc, j'ai commencé à lire le texte en persan. J'ai commencé à le traduire en guise d'exercice dans le cadre de cet apprentissage. Et petit à petit, au fur et à mesure que je traduisais, je me suis rendu compte que je voyais des choses dans le texte que je ne retrouvais pas dans la traduction de Lescaut, surtout au niveau de la voix narrative, du style. Et petit à petit, en continuant à traduire pour moi-même, je me suis rendu compte que peut-être que je pouvais essayer de tenter une traduction complète. Voilà.
Alors Sébastien Jallot, ce qu'on peut lire aujourd'hui dans ce très beau livre des Belles Lettres, c'est bien plus que la traduction, puisqu'il y a l'édition du texte persan, qui est un peu l'édition définitive, puisque vous collationnez plusieurs versions. Alors, ça, c'est un vrai travail d'érudit, de savant, de spécialiste de l'œuvre d'Hedayat. Et combien de temps ça vous a pris?
Alors, en tout et pour tout, à partir du moment où j'ai vraiment décidé de faire la traduction du roman en entier, à partir de ce moment-là jusqu'à la publication, c'est à peu près 2 ans. 2 ans à plus ou moins à plein temps. Donc ça, c'est pour la durée du projet. Alors, j'imagine que vous voulez me demander pourquoi est-ce que j'ai fait une édition critique ou...
Oui, quand même.
En fait, c'est un peu une histoire compliquée. C'est, disons, au tout début de cette histoire... Le fait est que la traduction de Lescaut est très très célèbre.
La traduction de Roger Lescaut, très célèbre, qui a été publiée par José Corti en 1953.
Exact, oui. Et donc cette traduction était très respectée, avait été acclamée par André Breton, par plusieurs grands critiques de l'époque. Donc premièrement, c'est vrai que je voulais être prudent en fait. Je voulais m'assurer que je maîtrisais bien le contexte, bien les sources, que je comprenais bien le roman. Donc j'ai commencé à me documenter finalement sur le roman, sur son histoire, sur l'histoire de la rédaction, etc. Et au fur et à mesure de ces recherches, je me suis rendu compte en fait, non seulement que les éditions modernes de La Chouette aveugle en persan contenaient des différences, donc elles n'étaient pas entièrement identiques, et puis je me suis rendu compte qu'il existait en fait plusieurs éditions qui avaient été faites du vivant de l'auteur, 3 éditions différentes. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que je pouvais pas faire cette traduction sans finalement être sûr du texte original. Enfin, il fallait que je m'assure que j'avais le bon texte et aucune édition critique avait jamais été faite. Les 3 éditions en question avaient jamais été comparées. En fait, il y en a une qui était même réputée inexistante ou plus, certains critiques disaient qu'elle existait, d'autres disaient qu'elle n'existait pas. Donc, finalement,
La fameuse édition de Bombay sur laquelle on reviendra tout à l'heure.
Voilà. Donc ça, c'était la première édition. Non, en fait, celle-ci était facile à trouver. Ouais, pardon. Je peux préciser. Donc, la première édition de Bombay qui était parue en 36 était connue. Elle était sur Internet. Par contre, les 2 éditions ultérieures, une qui était publiée en feuilleton Et la troisième qui était publiée par le journal qui avait publié le dit feuilleton, mais donc qui avait publié cette troisième édition en un volume. Cette troisième édition était extrêmement rare. Et donc, j'ai finalement réussi à mettre la main dessus à Téhéran. Et grâce à ça, j'ai pu comparer les trois versions et m'assurer que finalement le texte que j'allais traduire était bien authentique. Maintenant, ce qui m'a vraiment décidé à faire cette édition critique, c'est pour une raison un peu bizarre, en fait, disons, eu égard à la littérature. Je me suis rendu compte que les trois éditions étaient relativement similaires, hormis pour la seconde qui avait été censurée. Mais si on met de côté les passages censurés, elles étaient relativement similaires au niveau du contenu, au niveau lexical, quasiment très peu de mots changés, très peu d'expressions, ici et là, certaines corrections. Mais la principale différence entre ces trois éditions était de l'ordre de la ponctuation. Et là, c'était massif parce qu'il y avait à peu près 1500 variantes de ponctuation qui se répartissaient entre ces trois éditions. Et ça faisait quand même beaucoup. Et c'était d'autant plus intéressant que finalement, ce qui changeait avait surtout trait à des caractéristiques de ponctuation qui étaient très idiosyncrasiques de la première édition. C'est-à-dire l'usage du tiret, par exemple, du tiret quadratin, qui est un signe de ponctuation qu'on n'utilise pas de façon aussi abusive que Hedoyat dans cette première édition, où quasiment toutes ces phrases sont scandées par le tiret. Et ce tiret ne substitue ni le point ni la virgule, mais au contraire vient se surajoute au point et à la virgule d'une façon qui est beaucoup plus de l'ordre de la scansion rythmique que de la scansion syntaxique ou grammaticale.
Alors on va y revenir quand on va aborder la traduction en elle-même, puisque vous reprenez justement ces tirets dans votre traduction. Mais avant tout, il faut dire qui est Sadek Hedoyat, Sébastien Jalot.
Alors, c'est un peu difficile à résumer, mais en tout cas, voilà, Sadek Hedoyat, c'est le fils d'une grande famille d'intellectuels, de bureaucrates iraniens. Sadek Hedoyat est né en 1903 à Téhéran. Très tôt, il apprend le français parce qu'il est inscrit à une sorte de lycée français qui est à Téhéran à l'époque, qui est dirigé par des missionnaires. Peu après, il est envoyé, comme beaucoup d'autres étudiants de l'époque, d'étudiants, disons, des classes les plus hautes, il est envoyé en France pour faire des études d'ingénieur, en fait, dans le but de, qu'en revenant en Iran, il puisse contribuer à la modernisation du pays. Et donc, c'est son premier séjour en France, où il parfait sa connaissance du français, où il aussi fait une première tentative de suicide, et où il commence surtout la rédaction de ses premières œuvres, donc ses premières nouvelles. Et donc, dès son retour en Iran, au tout début de 1930, il commence à publier des recueils de nouvelles, des nouvelles qui sont importantes parce qu'elles annoncent un peu juste après la publication des nouvelles de Mohammad Ali Jamalzadeh, qui était un peu le premier nouvelliste moderne en Iran. Les nouvelles de Sadek Hedoyat annoncent un peu la création d'une nouvelle iranienne, mais inspirée du modèle occidental, sachant pour nos auditeurs que le genre du roman et de la nouvelle était un genre qui n'existait pas vraiment en Iran avant la fin du 19e siècle. Ce qu'on a déjà au fin du 19e siècle, début 20e, c'est quelques romans historiques, mais assez... sont de facture un peu laborieuse. Mais avant cela, la littérature était entièrement dominée par la poésie et le vers, donc il n'y avait rien de tel que le roman. Donc disons que Sadek Hedoyat est un des premiers introducteurs de cette forme dans l'Iran moderne. Et donc il publie plusieurs recueils de nouvelles, puis au gré d'un problème avec l'État iranien qui, disons, l'interdit de publier davantage, il cesse de publier pendant plusieurs années, jusqu'à la chute du Reza Shah, donc le monarque dictateur de l'époque. Et après la chute du roi, il recommence à publier un roman, encore un ou deux recueils de nouvelles, plusieurs traductions du persan médiéval vers le persan moderne. Mais petit à petit, il cesse d'écrire, assez découragé par, disons, le climat politique de l'Iran de l'époque et découragé peut-être par ses propres angoisses personnelles. Et voilà, à la toute fin de sa vie, il décide de fuir en France. Il se réfugie en France en 1950 et d'y finir sa vie rue Championnat dans le 18e en 1951.
Et à quel moment alors est-ce qu'il rédige ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Bouffe et cours, La chouette aveugle?
La date de rédaction est inconnue en réalité parce que il y a eu beaucoup de débats autour de cette question, mais à mon avis, son œuvre, c'est une œuvre qu'il a rédigée entre 1933 et 1936. Et qu'il a, en fait, étrangement, publié pour la première fois en Inde, donc à Bombay, Sachant donc, comme je l'avais dit juste avant, qu'il avait été interdit de publier dans son pays, donc s'il se trouvait vraiment au début de cette période, il avait été interdit de publier en 1935. Et donc, c'est tout à fait par hasard, alors qu'un ami qui était consul à Bombay passait à Téhéran, il a été invité à séjourner à Bombay avec cet ami. Et une fois là-bas, il s'est mis en relation avec la communauté intellectuelle personophone zoroastrienne de Bombay. Et à ce moment-là, il a entrevu la possibilité de publier quelques œuvres qu'il avait emportées avec lui, des manuscrits encore non publiés en Iran. Il avait entrevu la possibilité de les publier en Inde. Finalement, personne ne lui a donné de l'argent pour rien publier ou personne ne lui a proposé de solution. Mais lui-même, avec les moyens du bord, il a commandité une édition renéotypée, donc une sorte de photocopie de l'époque, de son manuscrit, en fait. Donc, il avait le manuscrit de La Chouette aveugle au propre et il l'a fait photocopier à 50 exemplaires. Il a fait relier ces 50 exemplaires et les a envoyés à plusieurs de ses amis et à sa famille à Téhéran. Et en fait, ça, c'est la naissance du roman.
Oui, alors vous retracez d'ailleurs dans cette édition qui vient de paraître aux belles lettres les circonstances de la vie de Hedayat en Inde, ce qu'on peut en savoir dans une enquête assez minutieuse. Et ça, c'est un travail en soi qui éclaire énormément les circonstances quand même si c'est pas forcément l'écriture même de La Chouette aveugle, en tout cas un peu le monde qui entoure ce texte mythique.
Ouais, oui, ça nous donne un peu une idée du contexte du monde dans lequel il surgit, le contexte dans la vie de Hedayat et dans le contexte politique qui était celui de l'Iran d'alors. Mais c'était aussi important, en fait, de retracer l'histoire de ce voyage, parce que c'était aussi un des moyens d'essayer de se demander si, de fait, le roman avait une relation avec le voyage en Inde ou non. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le roman utilise beaucoup l'Inde comme un motif narratif, où la mère du narrateur est une danseuse de temple indienne, le père du narrateur a voyagé en Inde, et disons que le narrateur est un peu tout le temps obsédé par cette image de l'Inde et l'image de sa mère qui était danseuse. Et il a souvent été question chez les exégètes de la possibilité que le voyage en Inde ait directement inspiré l'écriture du roman. Mais finalement, en fait, au gré de ses recherches sur le voyage de Hedayat en Inde, je me suis rendu compte que matériellement, historiquement, c'était sûrement pas possible. Et qu'au contraire, en fait, il a fait de nombreuses autres choses, dont écrire, par exemple, deux nouvelles en français qui ont été mises en annexe du livre. Mais également étudier, par exemple, le persan médiéval et commencer tout un travail de traduction des œuvres par la vie vers le persan moderne.
Oui, il s'intéressait vraiment au zoroastrisme, à partir de ses sources, en fait. C'est aussi ça qu'il découvre là, en Inde, et qui va petit à petit un peu irriguer un peu de loin son œuvre postérieure. Mais pour en revenir à La Chouette aveugle, puisqu'on parle du texte, c'est un roman de vision. Extrêmement étrange dans sa forme pour l'époque, qui nous paraît à nous extrêmement moderne, très très 20e siècle, à tel point qu'il a plu justement à des surréalistes comme André Breton en France. Et c'est un peu un des miracles de ce texte, c'est qu'il ne ressemble non seulement à aucun des textes qui pouvaient s'écrire en Iran à ce moment-là, mais aussi à aucun des autres textes de Saler et Hedayat, à part peut-être une autre nouvelle.
Exact, oui. Je pense que c'est un roman qui est, à mes yeux, peut-être le trait le plus caractéristique de ce roman, le plus innovateur, et je pense pour l'époque, même en Occident, enfin de ce que je connais, mais j'ai l'impression que c'est surtout l'usage du procédé de la répétition et de la réitération, qui à mon avis est extrêmement singulier dans ce roman, puisque il y a un usage du procédé de la répétition qui est développé à tous les niveaux de la structure romanesque, donc depuis le style, où on retrouve des phrases qui reviennent comme des leitmotifs à travers l'ensemble du roman, des mots, des expressions, mais aussi les personnages sont tous des reflets les uns des autres, se répètent constamment les uns les autres, les mêmes situations se répètent plusieurs fois dans le roman. Le narrateur lui-même semble se dédoubler ou se répéter lui-même, la voix narrative elle-même se dédouble, et à mon avis, ça c'est une des choses qui rend ce roman si original dans l'histoire de la littérature en général, je pense. Ouais.
Et puis aussi son rapport peut-être à une forme un peu altérée de conscience, qu'on peut, alors il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais une des explications possibles, c'est l'opium, et c'est justement, on a beaucoup écrit sur ce texte, que c'était voilà, un texte de vision d'opium, même si Hedayat n'était pas du tout opioman ouais. Lui-même, même qu'il détestait les opium. Il en parle très mal dans ses nouvelles.
Oui, tout à fait. Oui. C'est un roman extrêmement imagé, avec des métaphores très puissantes, puis des moments profondément hallucinatoires où on passe de moments qui sont absolument digressifs. On a l'impression que la voix narrative prend une grande prégnance, puis des moments presque de pure observation qui sont presque oniriques ou complètement descriptifs, avec des scènes qui sont elles-mêmes jamais réalistes, quoi qu'il y ait toujours des indices de référents réels qui se cachent dans le texte et qui constamment l'ancrent dans une possible réalité de l'époque.
Quoique, alors là, justement, une possible réalité de l'époque, rien n'est moins sûr, parce que ça a aussi un côté extrêmement irréel et universel. On ne sait pas tellement... Justement, cette présence de l'Inde, finalement, elle l'éloigne aussi de l'Iran de son époque. On ne sait pas très très bien où ça se passe, ni quand non plus.
Tout à fait. Mais donc, en fait, ça a toujours été une des interprétations les plus privilégiées, donc ce côté un peu universel, et même la possibilité que Hedayat ait été, par exemple, une des choses qui a été les plus dites et redites, c'était que Hedayat était très inspiré par le surréalisme ou par l'expressionnisme allemand. On a essayé de trouver mille et une influences précises dans le cinéma ou dans les romans. Et c'est une, bon, c'est une interprétation entièrement valable et le caractère onirique du roman s'y prête tout à fait à ce genre d'interprétation. Mais d'un autre côté, en fait, je me suis rendu compte aussi en creusant un petit peu et notamment grâce à travaux de deux chercheurs en Iran que j'ai découvert par hasard au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aussi différents lieux à Téhéran, surtout à Ray, donc Ray qui est en fait le théâtre de la narration.
Ray, c'est une petite ville au sud de Téhéran, aujourd'hui, à 30 km à peu près.
Et en fait, il y avait différents détails du roman qui pouvaient être expliqués par des référents en fait réels. On n'était pas obligé d'aller jusqu'à Nosferatu, par exemple, pour expliquer certains paysages qui apparaissaient dans le roman, mais que, par exemple, sur la route de Shah Abdul Azim, donc du sanctuaire qui se trouve à Ray et qui fait souvent l'objet de mention dans le roman. En fait, on voit des bâtiments, il y avait des bâtiments ou des paysages qui ressemblent en fait à ceux qui sont décrits dans le roman de façon plus abstraite. Bon, il y a mille et un détails que j'ai voulu en fait mentionner dans l'appareil de notes pour justement essayer de nuancer certaines interprétations qui sont les plus courantes et d'essayer de ramener parfois un peu le lecteur à certains indices qui pouvaient être cachés dans le roman et qui n'étaient pas évidents.
Il faut dire aussi que Sadek Hedayat, s'il est un des premiers prosateurs modernes, entre guillemets, de l'Iran, il a aussi un pied en Europe. Il a été traducteur, il a traduit notamment Kafka, par exemple. Et donc, il est vraiment à la fois grand connaisseur de la littérature persane classique, puisque c'est l'éditeur d'une version des Quatrains de Rayam, par exemple, et tout ça, qui connaît très bien le persan ancien, mais aussi, à travers le français, un peu de cette littérature européenne qui le fascine. Donc, on peut comprendre que finalement, La Chouette aveugle se fasse un peu le reflet de cette double culture littéraire.
Oui, oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'était déjà connu avant, c'est pas quelque chose que j'ai découvert, mais que j'ai mentionné dans les notes aussi, c'est que, étrangement... Hedayat a introduit des extraits des cahiers de Maltz-Loritz-Bridge de Rainer Maria Rilke dans le roman. En fait, il y a certains extraits du roman de Rilke qu'il a donc vraisemblablement lu, qu'il a vraisemblablement traduit en persan et qui sont trouvés leur chemin à l'intérieur du roman de façon assez inexplicable. Donc, encore un témoin de la connaissance qu'Hedayat avait de la littérature française de son époque, parce que Rilke était quand même mort, je pense, en 1929, si je ne me trompe pas, ou 26.
Oui, lui, il le lit en français.
Oui, il le lisait en français. Et Hedayat avait une connaissance donc parfaite du français, écrivait parfaitement en français, parlait extrêmement bien le français, et avait, grâce à son séjour en France, mais aussi grâce à des amis qui étaient en France, était constamment alimenté de tout ce qui paraissait, en tout cas de beaucoup de choses qui paraissaient en France, qui lui étaient envoyées par la poste. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, on voit, il passe son temps à demander « envoyez-moi tel livre, cherchez tel livre pour moi ». Et absolument surtout, enfin, autant en littérature qu'en histoire, qu'en philosophie. Donc c'est sûr que La Chouette aveugle est un roman qui est imbibé de la connaissance, disons, d'une certaine littérature mondiale. Après, des influences spécifiques, elles sont très difficiles à identifier, je trouve, ouais.
Mais là, il y a quelque chose dans La Chouette aveugle qui lui a valu la censure, qui est justement son aspect très sombre et sombrement sexuel aussi. Il y a une question de désir dans La Chouette aveugle qui fait que les censeurs iraniens, les uns après les autres, selon les générations de censure pourtant différentes, s'en sont pris à ce texte et en ont coupé des morceaux.
Tout à fait, oui. Donc dès la première parution du roman en Iran, donc qui constitue la seconde édition du roman, donc dans le journal Iran en 1942, donc dès cette première édition iranienne, le texte est censuré de part en part. Il y a à peu près, je sais pas, l'équivalent de 5 ou 6 pages de texte qui disparaissent. Et ces censures ont toutes trait à soit à certains passages de caractère dit érotique ou certains passages qui sont considérés comme contraires à la religion islamique.
Alors, entendons-nous bien, érotique, c'est très allusif.
Exactement, ouais. Oui, c'est souvent, hormis la dernière scène du roman que je décrirai pas, pour garder le secret, mais hormis la dernière scène du roman qui est un petit peu plus explicite, tous ces passages, en fait, sont allusifs. Parfois, ça a juste trait à la nudité, à seulement trait au désir. Mais c'est vrai que c'est un thème qui traverse le roman de part en part, comme d'ailleurs d'autres nouvelles de l'écrivain. Et c'est toujours, en général, ce thème du désir est toujours lié aussi à celui de l'humiliation, en fait. Il y a souvent une scène, par exemple, d'une femme qui rit d'un homme, par exemple, ou celle d'un homme qui est constamment dans l'espoir d'une apparition presque salvatrice d'une femme ou d'une simple vision. Tout est souvent une relation de rédemption ou de damnation, disons.
Alors Sébastien Jallot, venons-en à la traduction, puisque c'est quand même l'objet finalement de tout ce travail. Bien sûr, c'est absolument passionnant d'avoir tout ce qu'il y a autour, mais vous nous offrez un nouveau texte français de La Chouette aveugle. Alors on a évoqué tout à l'heure les questions de ponctuation. Est-ce que c'est ça qui vous a frappé d'abord dans votre tentative de remettre en français La Chouette aveugle, ces différences de ponctuation entre les différentes éditions?
Non, en fait, ça je l'ai découvert plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire le travail d'édition critique. Ce qui m'a en fait frappé, ce qui m'a donné envie de retraduire le roman, avait surtout à voir avec la voix narrative, en fait. Je trouvais que le texte persan, la voix narrative qui portait le texte persan, avait une certaine qualité, un certain rythme, une certaine aspérité que je ne retrouvais pas nécessairement dans la traduction de Lescaut, bien qu'elle soit exemplaire à tous égards. Et finalement, c'est le désir d'entendre cette voix en français ou d'arriver à la reproduire en français, à la réinventer en français, qui m'a donné envie d'essayer de traduire le roman.
Alors ce qu'on voit, et ce qui était déjà très clair quand on lisait la traduction de Roger Lescaut, c'est que lui, il choisit de ne reprendre aucune des répétitions qui sont un peu une des caractéristiques du style persan, de l'écriture persane, qui répète facilement, qui utilise deux synonymes d'un verbe les uns après les autres, plutôt que d'en mettre un seul, là où en français, généralement, on n'en met qu'un seul. Et donc ça, c'est très frappant quand on regarde les deux textes. Si je lis la première phrase, par exemple, de Roger Lescaut, donc publiée chez José Corti en 1953... Il est des plaies qui, pareil à la lèpre, rongent l'âme lentement dans la solitude. Ce sont là des maux dont on ne peut s'ouvrir à personne. Et votre version, dans la vie, il est des blessures qui, semblables à la lèpre, lentement dévorent et entament l'esprit dans sa retraite. Ces douleurs incroyables, il n'est possible de les exposer à personne, car l'habitude veut qu'en général, elles soient mises au rang des incidents et événements formidables et rares. Donc on voit bien que là où Lescaut choisit de regrouper deux adjectifs ou deux verbes en un seul, vous maintenez la langue des dyades.
Oui, alors c'est vrai que je me suis un peu exposé à la critique en faisant ça, parce que toute personne qui connaît un petit peu le persan sait que le persan a tendance à dédoubler souvent les verbes, à dédoubler les adjectifs, à dédoubler les mots. La répétition est bien plus courante en persan qu'elle ne l'est en français. Et c'est vrai que c'est un parti pris qui peut paraître fort parfois de traduire, de suivre en fait cette pratique persane, d'essayer de la garder en français. Nonobstant, je me suis persuadé petit à petit au fur et à mesure de ma relation avec le texte persan que, étant donné qu'on se trouve dans un roman dont un des procédés formels les plus importants est justement la répétition, et justement... le jeu sur la reduplication, sur le dédoublement, que c'était peut-être ne pas entièrement prendre au sérieux, en fait, Edoyat et ce qu'il a pu faire, et son style et ses choix, que de considérer que, finalement, toute une partie de ce qu'il a pu écrire dans ce roman, de ses choix de mots, de ses choix stylistiques, pourrait être purement explétif ou purement du registre de la langue, et donc négligeable pour la traduction et pour la littérature. Au contraire, en fait, mon parti pris, ça a été de considérer que, comme un peu dans un poème où tout pourrait être important, tout pourrait être décisif, et que je devais, en fait, négliger rien a priori, mais seulement en dernière instance, après, disons, arriver vraiment au bout de mon travail à la dernière version, faire les amendements qui semblaient nécessaires pour que le lecteur français ait quand même l'impression de lire sa propre langue et pas une autre. Mais c'est vrai que j'ai essayé d'aller aussi loin que je le pouvais, en fait, dans cette recherche.
Sachant peut-être que Edoyat lui-même avait lu, en grande partie, Bon, il meurt quelques temps avant la publication, mais il avait lu presque la dernière version de Roger Lescot et qu'il appréciait, justement. Il disait que cette traduction, enfin dans la lettre que vous reproduisez, il ne se plaint pas, en tout cas, de ce qu'il a lu de la traduction de Lescot.
Non, en fait, il y a un témoignage un peu divergent, mais disons qu'il y a très peu d'indications sur la réception qu'avait eu Edoyat de la traduction. Il y a un témoignage qui dirait qu'il l'avait apprécié à demi. Je pense que n'importe qui, enfin Edoyat lui-même ou Lescot lui-même, ou en fait n'importe qui à l'époque et aujourd'hui encore, on peut tous être extrêmement satisfaits, orgueilleux enfin, de ce que Roger Lescot avait fait à l'époque, sachant que Lescot avait terminé sa traduction dès le début des années 1940, à une époque où pas un seul écrivain iranien moderne avait été publié en France, à l'époque où même l'idée d'une littérature persane moderne n'existait pas. Songer comme Lescot l'avait fait qu'il pouvait publier un roman iranien contemporain dans une grande maison d'édition, une maison d'édition prestigieuse, encore jeune, Corti à l'époque, mais quand même prestigieuse, pas une maison d'édition spécialisée qui pouvait publier un tel roman à Paris, c'était déjà extrêmement ambitieux de sa part et c'était tout à fait justifiable qu'il prenne les décisions de traduction qu'il a prises à l'époque et notamment cette décision de lisser les répétitions. Sachant qu'il n'a pas seulement lissé les répétitions linguistiques mais qu'il a également lissé des répétitions de style, au sens où il y a des phrases entières du roman qui sont répétées, qui sont des vrais leitmotifs et qu'il n'a pas choisi de répéter parce que selon lui, dans son introduction, la répétition ne convient pas au goût du lecteur français, qu'elle n'était pas possible en la langue française. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est peut-être plus exactement d'actualité pour nous.
En tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'on ait les deux exactement, versions ouais. Et la possibilité de lire non seulement la traduction publiée en 1953, mais celle de 2024 avec, bien sûr, cet immense appareil de notes, parce que là, on n'en parle pas, mais il y a aussi des documents, notamment inédits ailleurs, sur le suicide d'Edoyat. Ça aussi, c'est une enquête absolument incroyable.
Oui, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé des documents et je me suis dit que si je trouvais des documents inédits qui informaient un petit peu plus, qui jetaient un peu plus de lumière sur les circonstances du suicide de Edoyat à Paris ou de sa relation avec des écrivains français, par exemple, avec l'écrivain franco-allemand Joseph Breitbach, dont deux lettres de Edoyat, je crois deux, à Breitbach sont publiées en appendice. Donc, chaque fois que j'ai trouvé un document qui pouvait un peu jeter davantage de lumière sur les relations de Edoyat à la France, à ses séjours en France, j'ai essayé de les rajouter parce que je me disais que c'était un bon cadre dans lequel les présenter au lecteur. Et en outre, donc, il y a une longue chronologie à la fin de l'ouvrage qui donne une sorte de biographie condensée, très factuelle de la vie de Edoyat et qui m'a semblé pertinente, sachant qu'il y a tellement d'œuvres de Edoyat qui ont été publiées en France, tellement de choses déjà qui ont été écrites. Il y a une bibliographie assez considérable francophone dédiée à Edoyat, mais il n'y avait pas encore de vraie biographie, hormis les mémoires de M.F. Farzaneh, qui ont été publiés chez Corti, Rencontre avec Sader Edoyat. Hormis ce livre, il n'existait pas de vraie source sur la biographie de l'écrivain en français, donc je me suis dit que c'était un peu le moment de donner aux lecteurs français accès à ces informations. Et j'ai donné une importance particulière au moment du suicide. Oui.
Merci beaucoup Sébastien Jallot de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire La chouette aveugle de Sadek Edoyat, nouvelle traduction, annexe et édition critique du texte persan est paru aux éditions des Belles Lettres. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet avec Guillaume Fischer à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marseille qui m'a aidé comme chaque semaine à préparer cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site de France Culture et l'application de Radio France.